Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
La ville de Kolwezi abrite depuis hier la 7e conférence sur l'énergie. Cette rencontre se veut un cadre de réflexion pour voir comment la RDC peut réduire le déficit énergétique qu'elle connaît, explique l'initiateur de la conférence, Eric Monga. Plus de 4 mois après les élections présidentielles et législatives en RDC, l'Ituri ne connaît toujours pas les noms de ses élus provinciaux. La société civile Force Vive de l'Ituri soutient que la confusion règne au sein de la CENI et de la Cour d'appel de l'Ituri, jette le discrédit sur ces deux institutions. Et puis, des bombes larguées par le M23 à partir de Massissi au nord Kivu atterrissent au territoire voisin de Calais au sud Kivu. Constat du président du cadre de concertation de la société civile du sud Kivu, Delphin Birimbi, alerte sur l'expansion de l'insécurité du nord vers le sud Kivu. Il est l'invité de ce journal. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par la province du Lualaba. Début hier, ce jeudi, à Kolwezi, de la 7e conférence sur l'énergie. Selon son initiateur, l'opérateur économique Eric Monga, cette rencontre se veut un cadre de réflexion pour voir comment la RDC peut réduire le déficit énergétique qu'elle connaît. C'est notamment en faisant recours aux énergies renouvelables. Eric Monga donne plus de détails. Il est joint par Jean Gandou.
Pour l'instant, les efforts de l'accès à l'énergie pour la population, l'économie ainsi que l'État est quand même faible pour la RDC. Et ce, à côté des plus grandes réserves qui puissent exister tant en renouvelables qu'en non renouvelables. Et aussi par rapport à la transition énergétique, qu'est-ce que nous pouvons gagner dans cette transition énergétique tant prônée dans le monde entier? C'est ainsi que nous voulons nous mettre tous ensemble encore pour voir qu'est-ce qu'il faut pour enclencher, pour avoir cette flamme afin que l'accès à l'énergie puisse être amélioré. Il y a d'une part la population qui veut ça, quels sont les comportements à faire. Les investisseurs ils veulent investir dans le secteur et l'État aussi doit faire sa part de travail. Et au bout de cette réflexion, on voulait donner encore d'autres recommandations à l'État, aux opérateurs économiques et aussi à la population. Depuis quasiment plus de 40 ans, on accroît très peu 10 mégawatts par année, ce qui est insignifiant pour un pays comme le nôtre. Et pourtant, les besoins sont urgents. Le déficit est énorme.
Pendant ce temps, le ministère de l'Environnement et Développement Rural émet une série de recommandations à l'endroit des populations congolaises touchées par les pics de chaleur. Vous l'avez certainement constaté, il fait très chaud à Kinshasa. Dans un communiqué officiel publié le 8 mai, le ministère recommande de boire régulièrement et suffisamment de l'eau pour éviter la déshydratation, se réserver la prise d'alcool et d'autres boissons gazeuses. Parmi les mesures à long terme, il est recommandé en plus à la communauté de planter chaque mois au moins un arbre. D'autres détails avec Billy Van Lutumba.
La plantation d'arbres soutient le ministère de l'Environnement contribue non seulement à atténuer les effets du changement climatique en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Il favorise également la restauration de la biodiversité et améliore la qualité de l'air que nous respirons. Ce comportement soutient le ministère permet d'assurer un avenir durable pour les générations futures. Parmi les autres mesures préventives, le communiqué du ministère de l'Environnement conseille de rester le plus possible à l'ombre ou dans un endroit frais. Il est demandé à la population de se protéger également du soleil en portant un chapeau, des vêtements légers et des couleurs claires ainsi que des lunettes de soleil si possible. Par rapport aux habitudes quotidiennes, il est demandé à délimiter les activités à l'extérieur pendant le pic de la chaleur, généralement entre 12h et 15h. Dans son communiqué, le ministère insiste sur la protection des personnes vulnérables, en l'occurrence les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes vivant avec un handicap, les albinos et toute personne exposée à des risques accrus des complications liées à la chaleur.
Parlons justement du réchauffement climatique. Sachez que l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC et l'UNESCO ont organisé hier à Kinshasa une conférence qui a réuni les professionnels des médias et les étudiants de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC. Le thème, la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. C'est en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Occasion pour le professeur Anissé Bassilois, spécialiste en questions environnementales d'interpeller les gouvernants à favoriser l'accès à l'information liée à l'environnement. On écoute le professeur Anissé Bassiloua au micro de Richard Junior Kamunga.
Les secteurs de la pratique du journalisme environnemental, entre guillemets, ne payent pas. Déjà au Congo, vous savez comment la presse fonctionne ici. Alors déjà avoir des personnes qui se donnent à cette matière-là, c'est déjà une très 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 bonne chose. Mais ça ne suffit pas, il faut aller en profondeur, il faut encore amplifier le travail, aller plus loin. Alors pour aller plus loin là, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. D'abord, davantage de compréhension, parce que premièrement, les questions environnementales sont généralement des questions très techniques, très scientifiques. Il faut que les journalistes travaillent en collaboration avec les experts, avec les scientifiques, et pour mieux comprendre ces questions-là. Il ne faut pas que les journalistes hésitent à utiliser même les dialectes locaux pour expliquer les questions environnementales. Les Congolais estiment que les questions de réchauffement climatique touchent beaucoup plus les pays du Nord, ça touche d'autres personnes et que ça ne les concerne pas. Alors que quand on regarde les effets des réchauffements climatiques, ça touche même la population congolaise. Il y a à voir les inondations, la famine, la pauvreté, etc.
Comme dit dans le sommaire, la société civile Force Vive de l'Ituri s'inquiète de constater que plus de 4 mois après la tenue des élections présidentielles et législatives en RDC, l'Ituri ne connaît toujours pas les noms de ses élus provinciaux. Le coordonnateur de cette structure citoyenne soutient que la confusion règne au sein de la commission électorale et de la cour d'appel de l'Ituri et cela jette le discrédit sur ces deux institutions. Dieudonné Lossa invite les deux institutions à publier la liste définitive des députés qui vont siéger à l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Dieudonné Lossa est au micro de Jean-Claude Loki.
Vous allez vous rendre compte que plusieurs fois la CENI a proclamé les gens. Les autres sont soit invalidés et ensuite réhabilités. Mais notre inquiétude est que jusqu'à maintenant, la CENI n'est pas à mesure de résoudre ces problèmes. Ceux qui représentent la population, ce sont les députés. C'est vers eux que la population devait amener leurs doléances aussi. Mais à ce stade où on ne sait pas qui est député, qui ne l'est pas, la population a déjà du mal à poser leurs préoccupations au niveau des élus. Mais aussi, les candidats sénateurs ne savent pas maintenant qui est son électeur. Je crois que ça, c'est très grave, parce qu'avec cela, on ne peut même pas imaginer les élections de sénateurs. Or, l'Ituri doit être représenté dans toutes les instances de ce pays. Donc, il y a lieu que ce que CENI doit faire se fasse rapidement pour éviter que les gens ne puissent plus croire à ce que fait la CENI demain.
Et puis, renforcer les compétences des leaders religieux de toutes les tendances confondues, c'est le thème d'un atelier de 4 jours qu'organise l'église anglicane au Congo du diocèse de Goma au Nord Kivu. Un autre objectif poursuivi par cette activité, c'est de contribuer à l'élaboration d'un plan stratégique des confessions religieuses pour aider et accompagner les acteurs politiques, ceux de la société civile, ainsi que le gouvernement dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale durable, ce entre les couches sociopolitiques, les confessions religieuses et les communautés congolaises. L'église anglicane au Congo qui organise l'activité avec l'accompagnement de la MONUSCO est partie d'un constat. C'est comme l'explique ici Monseigneur et représentant légal de l'église anglicane au Congo, Martin Gordon, au micro de Gabriel Ouamenia.
Les constats peut-être sont à deux niveaux. Il y a les conflits partout. Il y a les conflits au sein des paroisses, au sein des confessions, parmi les confessions, dans les communautés, dans les familles, et nous devons être capacités pour gérer ces conflits. Ça on peut appeler la cohésion sociale. Mais le deuxième élément, il y a le grand conflit qui existe dans la province, surtout avec les M23, les ADF. Et nous sentons appelés à nous impliquer pour aider le gouvernement, soutenir le gouvernement et réfléchir sur la valeur ajoutée de l'Église, parce qu'on a essayé beaucoup de stratégies et la paix demeure un défi, on n'est pas encore là. Et nous voulons nous impliquer davantage en partenariat avec le gouvernement, la MONUSCO, mais ensemble comme confession religieuse. Donc la cohésion sociale, maintenant la recherche de la paix. Au sens plus large, on veut s'y investir davantage.
Notons qu'une 30aine de leaders religieux prennent part à cette activité dont la clôture est prévue demain vendredi. Nord Kivu toujours, la lutte contre la désinformation et les discours de haine au centre de l'atelier de sensibilisation de deux jours, atelier organisé par la MONUSCO à Goma. Selon les organisateurs, cette activité est motivée par le flux et la prolifération des fausses informations non vérifiées qui sont véhiculées par plusieurs canaux de communication, notamment les réseaux sociaux. Cette désinformation exacerbe souvent des tensions et des divisions entre les communautés, les acteurs politiques, la population et la MONUSCO, et cela empoisonne la cohésion et la paix sociale, surtout dans une province comme le Nord Kivu où la paix reste encore fragile. L'un des participants, étudiante à l'UPGL, explique les techniques apprises pour lutter contre la désinformation et le discours de haine. Maganya Foura est au micro de Gabriel Wamenya.
Il nous a été partagé, je crois, 9 clés. 9 clés qui pourront nous aider à pouvoir lutter contre, premièrement, la désinformation, notamment, si je peux en citer quelques-unes, on nous a dit qu'il faut vraiment éviter de pouvoir partager les faits qui ne sont pas vérifiés. Il faut éviter aussi de partager des informations peut-être qui datent et les approprier à un contexte d'aujourd'hui. Je pense que ce sont là les clés dont j'ai eu à retenir, mais aussi en ce qui concerne les discours de haine. Je pense qu'il nous a été dit, vu que les discours de haine est source de plusieurs conséquences néfastes que nous vivons ici dans notre pays. Ce que moi j'ai vraiment retenu, c'est que nous devons juste cultiver la diversité. Donc nous devons être fiers de notre diversité culturelle afin de pouvoir nous souder et nous puissions continuer à vivre ensemble. C'est ainsi que nous allons développer notre pays.
Participent également à cette activité des acteurs politiques et de la société civile, des étudiants ainsi que des artistes musiciens de Goma. Autre nouvelle, le mois de mai est considéré à travers le monde comme mois de l'abeille. Selon un apiculteur dans la province du Nord Kivu, c'est au cours de ce mois où il y a une intense activité des abeilles. C'est également le moment de la récolte du miel au Nord Kivu. L'activité apicole trouve sa place dans cette région où elle est plus pratiquée. D'importantes quantités de miel ont été produites l'année dernière par plus de 2000 apiculteurs. Denise Lukeso nous en parle.
Selon les statistiques fournies par la Corporation des apiculteurs en province, plus de 80 000 kilos, soit 89 tonnes de miel, ont été produites en 2023 par les apiculteurs formés. Des chiffres records se félicitent les présidents des apiculteurs en province. Pour Alphonse Paluku Kiyoma, la province dispose des quantités importantes de miel qui traînent encore dans différents milieux de production à cause de l'insécurité et par manque de preneurs. En prélude à la Journée mondiale de l'abeille, le 20 mai prochain, les apiculteurs plaident pour la création des marchés officiels pour écouler leurs produits. Ils sollicitent également l'appui du gouvernement congolais. Alphonse Paluku.
L'insécurité nous a freinés. Deuxième problème, nous n'avons pas les moyens techniques, donc les matériels. Et c'est là où nous laissons la voix à travers vos ondes aux potentiels investisseurs et même à l'État congolais. Aidez-nous à avoir des matériels adéquats pour fournir des produits de qualité. Nous voulons que l'État crée officiellement un marché pour les produits de la ruche. Pour vendre, l'apiculteur ne sait pas où amener. Il n'y a pas de preneur. Le ministère de l'économie qui doit créer un marché propre au miel congolais.
Le Nord Kivu compte plus de 2000 apiculteurs qui entretiennent plus de 23 000 ruches. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Direction l'Ituri, des activistes de défense des droits de l'homme du territoire de Mambasa dénoncent l'érection par des EDF de deux grands bastions dans la forêt de Menzi-Menzi, située à la limite avec le territoire de Beni au Nord Kivu. Selon les témoignages des rescapés recueillis par des acteurs de la société civile, ces rebelles, estimés à plus d'un millier, se réorganisent pour déstabiliser les chefferies de Babila Babombi et de Bakwanza. Ces activistes demandent aux autorités militaires de la 31e brigade de planifier des opérations de grande envergure pour démanteler ces deux bases rebelles afin de permettre aux populations d'accéder à leurs champs et de vaquer à leurs occupations. John Vuleverio, l'un des activistes des droits de l'homme à Mambasa, explique. Il est joint par Martial Kizabiamungu.
Cette forêt touche directement la forêt du territoire de Mambasa. Maintenant, il y a une entité qui s'appelle Menzi-Menzi, là où les ADF auraient déjà érigé des grands bastions. Et c'est de là qu'ils quittent pour opérer dans la chefferie de Babila-Bakwanza, dans la chefferie de Babila-Babombi, donc dans certains villages environnants, mais aussi dans des champs des agriculteurs. Ça inquiète énormément parce que aussi longtemps que ces deux cas ne sont pas encore mis à dispersion, l'ADF restera toujours actif dans les deux régions. Les autorités devraient prendre en considération cette information et voir dans quelle mesure ils peuvent directement s'imbriquer et neutraliser et complètement les ADF maintenant qui auraient déjà occupé cette forêt de Menzi-Menzi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mali. Human Rights Watch publie un rapport sur les massacres commis par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. L'Organisation de défense des droits humains détaille aussi des exactions des chasseurs traditionnels appelés dozo qui se sont transformés depuis des années en groupes d'autodéfense face aux djihadistes. Dans les deux cas, les faits remontent à janvier 2024 dans le centre du Mali. Selon les informations recoupées par Human Rights Watch, les djihadistes ont tué ce jour-là 32 personnes, dont des femmes, des vieillards et des enfants.
L'invité.
Il s'agit de Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu. Il alerte sur l'expansion de l'insécurité de la province du Nord Kivu vers le Sud Kivu par le M23. Delphin Birimbi est avec Jean Kassami.
Delphin Birimbi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous venez fraîchement de Calais?
Oui, je viens du territoire. Et
quelle est la situation sécuritaire à Calais?
La situation est totalement grave et ça nécessite une implication directe du gouvernement central puisqu'il y a déjà 7 morts et 6 blessés graves au niveau de Kisongati, dans le village de Murambi, groupement de Bouzi, chefferie de Boavu, territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu, à partir des bombes qui sont largués par le rebelle du M23 à partir de Rwangara. Rwangara, c'est dans le territoire de Masisi, en province du Nord Kivu. Ils ont largué des bombes, 3 bombes, mardi 7 mai 2024. C'est une situation qui est devenue monnaie courante dans le territoire de Calais.
Ces bombes larguées à partir du Nord Kivu sur le territoire de Calais, est-ce que ces bombes sont tombées sur des maisons d'habitation ou sur une foule rassemblée quelque part?
C'est dans plusieurs parties du territoire où les gens sont en train de fuir. Les gens qui étaient à Numbi, ils ont fui la fois passée vers Kalungu, Minova, Kisongati, Nyabibwe, Nyamasasa, Change et Nyamugari. Et maintenant, au niveau de Kisongati, c'est d'abord dans le village de Murambi, il y a une grande population qui est là, la population locale. À cela s'est ajouté aussi les mouvements réguliers des populations qui est en train de fuir. Et donc, les bombes sont tombés sur des maisons des habitants et dans des foules de populations locales de l'entité.
C'est-à-dire que les M23 n'ont pas encore foulé le sol du Sud Kivu, mais ils opèrent à partir de localités voisines du Nord Kivu.
Exactement, je confirme ici que les éléments du M23 ne sont pas dans le territoire de Calais, mais ils sont à limite avec le territoire de Calais. Donc ils sont du côté Nord Kivu, précisément dans le territoire de Masisi, chefferie de Baoundé, dans nos limites avec Calais. Donc du côté Calais, il y a le groupement de Bouzi et il y a le groupement de Ziralo. Maintenant du côté Nord Kivu, ils opèrent dans le groupement de Mufumishanga et dans le groupement de Ufamandu, à limite avec les deux groupements de Calais que je venais de citer. Et maintenant ils larguent des bombes à tout moment et ce sont ces bombes-là qui sont en train de tuer les gens. C'est à travers ces bombes-là que les gens sont en train de fuir. Si on prend la question avec légèreté, les rebelles vont risquer même d'attaquer immédiatement le territoire de Calais et ça sera comme le Nord Kivu. C'est pourquoi nous interpellons encore l'attention du gouvernement central à prendre cette question avec sérieuxité pour démanteler le phénomène M23.
À Bunyakiri, nous avons appris aussi au début de la semaine que la situation était tendue. C'était quoi là-bas?
Bon, à Bunyakiri, jusqu'à maintenant, la population vit toujours dans des psychoses généralisées sur cet axe-là. Donc, il y a eu des incompréhensions entre les éléments de Raia Mutomboki Amakombo et son collègue du groupe armé Raia Mutomboki Mungoro. Ils se sont affrontés et donc sur la barrière illégale érigée à Kichanga, le fils du général autoproclamé Amakombo serait intercepté sur la barrière. Il était en train de venir de Kambali Et comme la barrière là, c'est une barrière tracassante où les gens sont contraints de payer 500 francs, 1000 francs, il a aussi été taxé. Étant le fils du seigneur de guerre, il a refusé de ne pas payer. C'est comme cela qu'il serait torturé par les éléments du groupe armé Raïa Mutomboki Mungoro. Son père, étant informé de la situation, il est arrivé sur le terrain accompagné de ses hommes, et c'est là qu'il a commencé à tirer des balles. Et sur place, un élément de Mungoro était mort. Alors Mungoro, avec aussi ses collègues du groupe armé Mwenyasili, aussi Bibilo, ils se sont coalisés contre le groupe de M. Hamakom. Et maintenant, la population n'est pas encore vraiment... Du côté Mukwija, ça a été la même chose. Des éléments Maïmaï, Wazalendo, qui venaient du groupement de Mbinga Sid, ils voulaient passer à Mukwija pour Minova. Ils ont tiré plusieurs coups de balle. Vous comprenez que c'est tout calé qui est maintenant en insécurité grandissante. Et si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, donc Calais va risquer de tomber comme Masisi, comme Rutshuru.
Telfem Birimbi, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.